Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner à atteindre vos objectifs.
Priorité Santé, Céline Guillaume.
Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. Courante mais régulièrement remise en cause, médicale, culturelle ou cultuelle, nous parlons aujourd'hui de la circoncision, acte chirurgical qui consiste à ôter tout ou partie du prépuce, l'anneau de peau qui recouvre l'extrémité de la verge. On estime à au moins 30% le pourcentage d'hommes circoncis dans le monde. Moins répandue aujourd'hui au sein de la population chrétienne qu'elle ne l'a été par le passé, cette intervention est traditionnellement réalisée au 8e jour de vie des nouveau-nés dans la religion juive et en général entre 4 et 13 ans. Avant la puberté chez les musulmans. Son indication peut être thérapeutique, notamment devant un phimosis, une infection du pénis. Dans tous les cas, la postectomie, son autre nom, rencontre de vives oppositions de part et d'autre. Défenseurs des droits des enfants, professionnels de santé, scientifiques, victimes de complications post-opératoires. De son côté, l'OMS soutient cette pratique qu'elle recommande depuis 2007 dans le cadre de la prévention du VIH. Pourquoi faire pratiquer une circoncision et est-ce risqué? On en parle avec nos invités. Pour parler de la circoncision, nous accueillons le docteur Anthony Guiwerck, chirurgien urologue et andrologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Bonjour docteur Guiwerck.
Bonjour,
merci pour l'invitation. Je vous remercie moi aussi de prendre part à cette discussion pour nous apporter votre éclairage. Cette question, je vous la pose tout de suite parce qu'elle alimente pas mal de conversations sur le sujet. Est-ce plus hygiénique? La circoncision a-t-elle des vertus prophylactiques?
Alors, plus hygiénique, non, pas forcément. La verge, c'est un peu comme les mains, hein. Si on la nettoie, il n'y a pas de souci d'hygiène. Il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent que l'ablation du prépuce permet d'améliorer l'hygiène. Concernant la protection vis-à-vis des infections sexuellement transmissibles, il en va un petit peu de même. Le risque de transmission de certains virus semblerait être limité, mais rien n'a été prouvé médicalement. Ce sont seulement une pratique que l'on peut adjoindre aux autres pratiques de prévention contre les infections sexuellement transmissibles.
Un outil supplémentaire.
Exactement.
En milieu d'émission, pour notre pont Nord-Sud, nous irons à la rencontre du docteur Cyril Kamadjou, chirurgien urologue en cabinet privé au Cameroun, à Douala, très précisément. Et docteur Guiwerck, vous pourrez échanger, bien sûr, avec votre confrère. Chers auditeurs et auditrices, vous êtes vous aussi les bienvenus pour vous exprimer sur le sujet. Certains d'entre vous se sont déjà rapprochés de nous, comme Esther en Côte d'Ivoire, qui nous a laissé une note vocale et qui se demande, entre autres, que faire si elle a un jour un garçon, quelle décision prendre. Djeneba interviendra en direct depuis Ouagadougou pour nous parler des complications rencontré par son fils après l'intervention et solliciter les conseils de nos spécialistes, ou encore Monica à Cotonou au Bénin, qu'on écoute tout de suite.
Bonjour Priorité Santé, c'est Monica de Cotonou. J'aimerais savoir quel âge est le plus approprié pour procéder à la circoncision. Mon fils, il aura bientôt 2 ans et le pédiatre nous recommande de le faire maintenant parce que après 2 ans, ils ont plus cette facilité à se rappeler de la douleur. Ma mère, elle dit à partir de 3 ans parce qu'elle a une mauvaise expérience avec mon frère. Je pense que l'anesthésie n'a pas marché, du coup on lui a mal coupé. Deuxièmement, j'aimerais savoir quels soins lui prodiguer pendant la cicatrisation, que ce soit physiquement que mentalement. Et enfin, j'aimerais aussi savoir quels sont les procédés, comment se fait la circoncision exactement. Merci.
Docteur Guiwerck, pas mal de questions dans cette note vocale laissée par Monica. Alors, comment se fait la circoncision? On y va pour les gestes techniques, disons?
Eh ben, avec grand plaisir. Allez. Tout d'abord, c'est un geste technique, mais aussi un geste médical. Parce que comme ce qu'on a oublié de préciser, c'est que la plupart du temps, elle se fait sous anesthésie générale, surtout chez l'enfant. Parce qu'il faut que l'enfant soit le moins mobile possible. On peut le faire également sous anesthésie locale, mais il va falloir attendre que l'enfant soit un petit peu plus grand et compliant aux soins médicaux. Le geste technique, il y a eu plusieurs méthodes décrites dans la littérature médicale et depuis des milliers d'années, mais elle consiste à enlever un anneau de peau, le prépuce, en faisant 2 incisions circulaires sous le gland et au niveau du fourreau de la verge, c'est-à-dire la peau, et d'enlever cette petite bague de peau. et on va réamarrer sous le gland ce qu'on appelle le fourreau, c'est-à-dire la peau de la verge, avec des points de suture. Et la cicatrisation va se faire progressivement. Je dis qu'il y a plein de techniques, parce que maintenant, il y a des gens qui essayent d'inventer des techniques d'auto-circoncision avec des rangées d'agrafes, où il y a eu des techniques avec des cordes qui permettent de fixer un anneau qui va permettre à la peau de s'abîmer et que le prépuce tombe tout seul. Mais la technique classique est celle faite au bloc opératoire à la lame froide, avec cautérisation des petits saignements.
Alors, les soins post-opératoires, vous vous êtes déjà exprimé sur ce point, mais qu'en est-il de la prise en charge psychologique ? Elle a posé cette question, Monica.
Bien sûr, c'est pour ça que la Société française de pédiatrie, de chirurgie pédiatrique, recommande cette intervention quand il y a une indication médicale à partir de 6 ans. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que il est normal que le prépuce présente des adhérences avec le gland et que le décalotage soit difficile. D'ailleurs, les pédiatres conseillent de tenter un premier décalotage à partir de 3 ans, pour pas que ça soit trop douloureux et traumatisant pour l'enfant. Si à partir de 6 ans, le décalotage devient difficile, voire impossible, ou que des adhérences soient présentes, on envisage une circoncision. L'avantage de le proposer à cet âge, c'est d'inclure le jeune enfant, qui est le patient, comme étant acteur de son intervention, et puisqu'il peut également discuter avec nous, décider, lui expliquer au préalable comment va se passer l'intervention à l'aide de schémas très simplifiés et comment va se passer le soin. Ce qui les embête le plus possible, c'est est-ce qu'ils vont avoir ou pas des difficultés à faire pipi. Et la plupart du temps, non, puisqu'on enlève simplement de la peau qui est sous le gland.
Donc, ce qui est important, c'est que le professionnel de santé interagisse avec l'enfant comme un patient à part entière, finalement.
Tout à fait, tout à fait. L'enfant, c'est comme un adulte en miniature. La seule chose qui lui manque, c'est le vocabulaire pour pouvoir s'exprimer. Mais il comprend et assimile parfaitement tout ce qu'on lui dit.
Monica se pose cette question. Est-ce qu'avant 2 ans, finalement, ce n'est pas plus confortable pour l'enfant puisqu'il ne se souviendrait pas de la douleur de ce moment pas forcément agréable ?
C'est pas faux, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est un acte médico-chirurgical, parce que va se poser aussi la question de l'anesthésie. Quand on le fait, les anesthésistes recommandent d'endormir pour une intervention fonctionnelle, c'est-à-dire qui n'est pas vitale, d'avoir un enfant qui pèse au moins 10 kilos et qui a plus de 1 an. Il y a des centres où on commence à établir la circoncision à partir de cet âge-là. Les soins seront encore plus faciles, mais il faut pas oublier qu'à cet âge-là, la cicatrice peut tremper pendant quelque temps au niveau des excréments dans la couche, bien que ça soit stérile, et rendre un petit peu les soins post-opératoires un peu plus compliqué. Donc au moment où l'enfant est propre, semble un bon âge, mais je suivrai encore les recommandations françaises, à savoir au moins à partir de 6 ans.
Merci Monica pour vos questions. Quelles sont les autres questions qui reviennent souvent lors de vos consultations, Dr Guiwerck ?
Alors, ça va être sur les soins post-opératoires. Est-ce qu'il y a beaucoup de soins à faire ? La réponse est non. Simplement désinfecter 1 à 2 fois la plaie pendant quelques jours et des antalgiques. Est-ce que la verge va raccourcir ? Une fois de plus, la réponse est non, puisqu'on n'enlève que de la peau. La question de la douleur, on l'a déjà soulevée. Et après, c'est souvent la question de la sensibilité au niveau du gland. Est-ce que le gland va être plus sensible, moins sensible ? Et comme conséquence secondaire, est-ce qu'il y aura des problèmes d'érection ? Alors oui, c'est une des effets secondaires de cette intervention, c'est le changement d'aspect du gland. Quand on a un prépuce, il reste un peu violine, un peu luisant, c'est une muqueuse, un peu comme l'intérieur de la bouche. Ça sécrète en permanence un petit dépôt blanc qui peut s'accumuler, qui s'appelle le smegma. Cette sécrétion va diminuer, le gland va devenir plus épais, et l'aspect de la peau va changer. Il peut y avoir des petits troubles de sensibilité, mais plutôt moins sensibles qu'avant. Mais c'est vrai qu'en post-opératoire immédiat, là, cette sensibilité peut être accrue. Concernant les problèmes d'érection, moins, il y en a quasiment pas, en fait, pour être honnête, puisque l'érection est un mécanisme qui est lié d'abord par l'excitation. Et en fait, on peut avoir une érection sans avoir eu de stimulation au niveau du gland.
Alors, combien d'interventions de ce type vous réalisez chaque année ? Et quelle est la typologie, si vous arrivez à l'adresser, des patients ?
Alors, moi j'en ai 3 à 4 par semaine, et essentiellement de l'adulte, parce que je ne fais que de la chirurgie adulte. Comme j'expliquais en préambule, une bonne partie c'est pour raison médicale, un phimosis, un rétrécissement du prépuce. Ça touche moins de 1% des adultes qui ne l'ont pas fait avant, parce que soit ils arrivaient à pouvoir se décaloter, soit est arrivé des premières inflammations du prépuce qui ont majoré ce rétrécissement. Et j'en ai quelques-uns qui viennent pour l'aspect esthétique, convenance personnelle, qui souhaitent ne plus avoir de prépuce. Mais la plupart du temps, je dirais que à mes consultations, en tout cas à l'hôpital, c'est pour raison médicale en premier.
Est-ce que ces demandes esthétiques, disons, comme vous les avez appelées, restent marginales ?
Ah oui, c'est assez marginal. Sur ma consultation, c'est assez marginal. Et par rapport à une intervention pour l'ablation du prépuce à visée médicale, je laisse passer un délai de réflexion, un peu comme pour les contraceptions masculines ou la vasectomie, même si c'est pas forcément recommandé, être sûr de bien revoir le patient et qu'il ait compris ce à quoi cette intervention va être due. Puisqu'il va y avoir un vrai changement et le patient n'est pas malade, c'est simplement l'ablation du prépuce qu'il souhaite. Donc j'attends qu'il ait bien réfléchi à cette intervention et on la programme au besoin si la demande est réitérée. Donc
vous laissez ce temps de réflexion.
Tout à fait.
Vous venez de le redire, la circoncision c'est l'ablation du prépuce. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la fonction du prépuce ?
Il sécrète un petit biofilm qui va permettre la lubrification du gland, comme le gland, et permettent d'avoir une certaine élasticité au niveau de la peau lors de l'érection, que ce surplus de peau permette à la verge de se tendre. Mais avec ou sans prépuce, on peut très bien vivre.
Donc, penser que le pénis serait plus exposé à certaines infections ou maladies une fois circoncis, c'est une idée reçue, c'est une fausse idée ?
Tout à fait, parce que l'hygiène va être la même, que l'on soit circoncis ou pas. On conseille de se laver tous les jours et d'avoir une hygiène intime avec un savon, tout ce qu'il y a de plus simple. L'ablation du prépuce doit être réservée en priorité à des problèmes médicaux et qui permettra de les éviter par la suite.
Merci Dr Guiwak de nous aider à y voir plus clair. Je vous propose de répondre à une première vague de questions d'auditeurs arrivées via Facebook. Il y a cette question de Safi Yatouf en Mauritanie. Elle est assez... Oui, je pense qu'on l'a peut-être un petit peu évoquée. Quels sont les inconvénients de la circoncision ?
Alors les inconvénients, c'est plutôt les complications qu'il peut y avoir. Même si cette intervention a souvent été banalisée, elle n'est pas dénouée de risques chirurgicaux. Comme toute incision, comme toute plaie sur le corps, il y a deux grandes complications, l'hématome ou l'ecchymose, un gros bleu qui peut apparaître à la suite d'un saignement secondaire, qui peut nécessiter une reprise chirurgicale et une infection. Ce sont des complications aiguës, c'est-à-dire qui arrivent très précocement après la chirurgie, mais qui se traitent très bien, et fort heureusement, elles sont de moins en moins fréquentes. L'inconvénient principal, comme je l'ai dit, c'est que l'aspect du gland va changer. Il va se rigidifier un tout petit peu plus et il peut y avoir une légère baisse de sensibilité.
Question d'Olivier à Bounia en RDC. On entend dire que quand le bébé se fait circoncire, il y a peu de chances pour lui de voir son sexe développer. Est-ce vrai ? Je sais qu'on y a répondu quelque part, mais je pense que ça vaut le coup d'y répondre à nouveau.
Pas du tout. Il m'a déjà été amené de voir des circoncisions où la peau du prépuce a été un petit peu tirée en excédent avec une petite marge d'escalier. Ça veut dire que pour faire les sutures chirurgicales, il manque un petit peu de peau. Et l'avantage chez l'enfant, c'est que la cicatrisation dirigée se fait très bien et que de la peau va revenir. C'est-à-dire que même s'il y a un petit peu trop d'excédent de peau qui a été fait, la croissance de la verge va se faire naturellement.
Et pour finir, question de Sié à Ouagadougou, au Burkina. Est-il possible de pratiquer la circoncision soi-même sans passer par la méthode médicale ? On vous écoute. Alors, attentivement.
Je le déconseille fortement. Tout geste de chirurgical doit être fait par un praticien en santé. Les complications sont très importantes. Lorsque c'est fait soi-même, on ne sait pas exactement où on va couper. Souvent, on pense que c'est un geste anodin, mais il peut y avoir des plaies du gland, des lésions de verge traumatiques avec la verge quasiment coupée en deux, et des lésions d'un canal très important dans la verge qui est le canal de l'urètre. Si ça ne cicatrise pas, une complication importante est la fistule. Ça veut dire qu'il va y avoir un nouveau petit trou pour faire pipi qui va se développer autrement qu'au niveau du gland. Donc toute intervention doit être pratiquée par un professionnel de santé.
Donc ce point, il est primordial, pas de circoncision à la maison, Dr Guiwak.
Ouais, je sais bien qu'il y a plein de forums et de vidéos sur Internet, j'en ai vu pas mal, qui expliquent comment se circoncire tout seul. C'est à éviter.
À proscrire peut-être même.
Exactement.
D'ailleurs, je rebondis aussi là-dessus, c'est que au mois d'avril de cette année, le gouvernement algérien, on sait que la circoncision religieuse est largement pratiquée en Algérie, a rappelé à la population, en plein cœur du Ramadan, mois où justement les circoncisions sont assez nombreuses, l'interdiction de faire réaliser cet acte finalement en dehors des hôpitaux et des cliniques privées. Il faut vraiment se rapprocher de professionnels de santé compétents dans un environnement médical, stérile et comme vous venez de l'expliquer.
Tout à fait, parce que en dehors du geste, il y a aussi toute la partie médicale autour de l'enfant. Par des questions très simples, on va déjà vérifier qu'il n'y a pas de problème de coagulation, c'est-à-dire que le sang arrive à coaguler et former une petite croûte. Dès l'instant où nous, par un jeu de questions assez simples, mais qui sont médicalisées, on permet d'identifier les problèmes, on sait tout de suite si on s'expose à des complications, chose qu'un non-professionnel de santé n'aura peut-être pas l'habitude de poser comme question et s'exposera à de nombreuses complications.
Alors en France, il y a une distinction qui est faite entre ces interventions dites médicales, comme vous nous en avez parlé précédemment, et les interventions pour d'autres raisons, esthétiques, religieuses, culturelles. Mais seules les médicales sont prises en charge finalement par la sécurité sociale. Les autres, elles sont à la charge des patients.
Tout à fait. La circoncision d'un point de vue médical est appelée postectomie. C'est donc l'ablation du prépuce et elle est remboursée par le tarif sécu à hauteur de 75,15 €. Ça, c'est le remboursement qui va être fait. Et l'ablation du prépuce à visée esthétique est appelée circoncision et là, tout est à la charge du patient.
Alors ce non-remboursement justement de la sécurité sociale, finalement, ne joue-t-il pas un rôle dans ces circoncisions qui se font hors de tout cadre réglementaire et légal? Et est-ce que finalement aussi, il n'y aurait pas derrière une sorte de business de la circoncision qui se développerait?
Alors oui et non, parce que sous le manteau, beaucoup de gens demandent quand même un salaire, en quelque sorte, se font payer, il n'y a rien de gratuit. Et quand bien même il n'y aurait pas de prise en charge par la sécurité sociale, dès l'instant où il y a une intervention, les patients peuvent se rapprocher de certaines mutuelles qui peuvent ou pas, comme c'est considéré comme de la chirurgie esthétique, rembourser une partie ou une totalité de l'intervention. Et souvent, en discutant avec le chirurgien urologue spécialisé, on arrive à trouver un accord. L'objectif n'est pas de déposséder les patients de leur fortune, bien au contraire, c'est de pouvoir faire cette intervention dans de bonnes conditions. Donc je pense que le plus simple, c'est d'en discuter avec son chirurgien, que quand on explique au patient qu'il n'y a pas d'indication médicale et qu'il s'agit d'une circoncision rituelle ou pour confort, de pouvoir en discuter tranquillement et de voir ce que l'on peut faire avec la clinique ou l'hôpital qui prend en charge le patient.
J'aimerais bien qu'on parle d'hygiène. On a commencé à l'aborder tout à l'heure. Quelques mots sur l'hygiène. Quels sont les bons gestes? Essayons d'être très pratiques. Les bons gestes à adopter selon qu'on soit circoncis ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'ils diffèrent?
Les gestes vont être les mêmes, mais les patients ne feront pas forcément les mêmes. Je pense par exemple, après aller aux toilettes, il est convenu de bien s'essuyer, surtout quand on a un prépuce, parce que de l'urine, des petites gouttes retardataires peuvent s'accumuler. Et ça, c'est une porte d'entrée aux irritations chroniques que l'on appelle les balanites. Et donc, je demande assez souvent à mes patients qui se présentent pour des balanites à répétition, d'avoir une hygiène en post-mictionnel, c'est-à-dire après avoir fait pipi, irréprochable. Pas forcément de se nettoyer la verge plusieurs fois par jour, ça on le fait lors de sa toilette le matin ou dans la douche, mais surtout de bien essuyer les gouttes retardataires et d'uriner le plus possible décalotté pour avoir un prépuce sec à la suite des mictions. Quand on n'a plus de prépuce et qu'on est circoncis, il suffit de s'essuyer et la peau sèche d'elle-même. Mais l'hygiène est la plus simple. Ce n'est pas une cavité, contrairement à l'appareil génital féminin. Donc dès l'instant où il s'agit d'un organe qui est extériorisé, il se nettoie très facilement une fois par jour et l'hygiène reste la plus simple.
Et à partir de quel âge peut-on apprendre à l'enfant ou jeune garçon, petit garçon, à avoir ses gestes seuls, à pratiquer ses gestes seuls d'hygiène?
À partir de 3 ans, dès que le décalotage va être possible. Avant, il faut surtout pas essayer, parce qu'il peut y avoir des petites adhérences, c'est-à-dire que la peau du prépuce peut être fusionnée par endroits avec le gland. Et plus il va avoir des érections nocturnes pendant les premières années de vie et la verge qui se développe, plus petit à petit et progressivement, ces adhérences vont se détacher, permettant la libération complète du prépuce. À partir de 3 ans, on peut essayer. On commence à décaloter. Et le bain est un bon moyen pour apprendre à l'enfant à adopter une bonne hygiène intime. Il ne faut pas que ça soit un geste douloureux ni traumatisant. Il suffit d'essayer un tout petit peu en prenant la verge entre deux doigts, entre le pouce et l'index, et essayer de désourler comme un col roulé tranquillement. Si on sent que ça force, que ça tire, que l'enfant a mal, il vaut mieux consulter parce qu'il doit persister des adhérences.
Vous ne manquez pas de métaphores, docteur Guiwerck, et je sais que justement ça permet d'amener aussi, de dédramatiser certains gestes. Hein. Je sais que certains parents se retrouvent bloqués parfois face à ces gestes-là, donc notamment les mamans, quand elles ont des petits garçons, elles ne savent pas toujours quel geste. Là, encore une fois, vous dédramatisez et ça peut se faire simplement en expliquant. Allez-y.
Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais interne, aux urgences pédiatriques, un soir je reçois une maman un petit peu paniquée, il est 22 h, en me disant qu'elle a un souci, est-ce que le prépuce est resté bloqué en arrière. Effectivement, dans de rares cas, le prépuce peut rester bloqué en arrière du gland et ça s'appelle un paraphimosis. C'est-à-dire que la peau s'est resserrée en arrière au lieu de se resserrer devant et a bloqué et a fait un peu un garrot. C'est quelque chose qui est très douloureux, qui nécessite d'être pris en charge rapidement et à l'aide d'une petite crème anesthésiante, on endort la peau et on réourle le prépuce. Et puis je vois l'enfant arriver dans le box de consultation aux urgences et je le vois relativement calme normal pour un enfant qui a très mal. Je l'examine et à ma grande surprise, je vois le prépuce qui est bien en place. Et là, je le décalote, je vois qu'il n'y a pas de souci. Elle me dit, mais si, regardez, là, c'est tout violet, tout violine. Et donc, effectivement, c'est simplement la coloration naturelle du prépuce. Mais comme sur les premiers petits-enfants, ce sont des mamans qui n'ont pas forcément eu l'habitude de voir le gland à vif et la coloration qu'il a, elle a paniqué à juste titre parce qu'elle avait peur que le prépuce soit resté en arrière. Donc oui, il y a un manque aussi d'information sur ça et c'est au rôle des pédiatres de pouvoir délivrer cette information aux mamans et aux jeunes mamans lorsqu'elles ont leur premier garçon.
Dans un instant, nous poursuivons cette discussion sur la circoncision. Nous allons aborder les complications éventuelles et justement, nous allons accueillir Geneba qui va nous faire part des douleurs post-opératoires de son petit garçon de 3 ans qui a été opéré à l'âge de 14 semaines. Docteur Guiwerk, je vous dis à tout de suite.
À tout de suite.
J'ouvre la maison pour le gang. Oui, j'ouvre la maison pour le gang. Tout pour la mise, tout pour le gang. On sympathise pas, c'est pas la peine. Tout pour la mise, tout pour le gang. C'est tout pour la mise, tout pour le gang.
La affine, on joue, laisse la affine, on joue. Pendant ma cou, la vie est bien serrée à ton coin. Un café, ça fait un moins. Un pas à flipper, c'est mon. On demande pas les pommes. Ça a fait un moment. Un jour, j'ai changé mood. Moule, tu connais le mouvement, sûrement et doucement. Un café les deux, pas la pour un service. Un café mon deux, si y'a des assis, on se fait. Si c'est là, nous pas refait le monde. La hockey au programme, c'est tout pour la mif, tout pour le gang.
Tout pour la mif, tout pour le gang. Mon cœur ramène pas, c'est pas la peine. J'ouvre la maison pour le gang. Oui, j'ouvre la maison pour le gang. Tout pour la mif, tout pour le gang. C'est pas la peine. Tout pour la mif, tout pour le gang. C'est tout pour la mif, tout pour le gang. Gang. En carré là, chaque monde j'apprends au dé. Question au Baptiste, c'est naïf, quel est ton fils? Mon envoi d'y aïe, m'en si un gros modèle. Et si en question de temps pour moi, pétro, paye un goulis. Les ayoritis, c'est la moune, venir à moi. En s'écroche, accroche, aïe, aussi ni un monde qui vient. C'est moi. En carré, les ayo, sous-estime moi. Yo, ni combien loyer. C'est ni un monde qui vient, c'est comme moi. Pendant que nous carré fait le monde. La rock a fait un zoom zoom Drexy. C'est tout pour la mif, tout pour le gang. Tout pour la mif, tout pour le gang. Mon cœur ramène pas, c'est pas la peine. J'ouvre la maison pour le gang. Oui, j'ouvre la maison pour le gang. Tout pour la mif, tout pour le gang. On sympathise pas, c'est pas la peine. Tout pour la mif, tout pour le gang.
Drexy et Lissina is Jean sur RFI avec TPLG. Nous parlons de la circoncision dans Priorité Santé. Le docteur Guiwerk, chirurgien urologue et andrologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris, nous accompagne. Place au témoignage de Geneba. Bonjour Geneba.
Bonjour Céline.
Vous vous trouvez à Ouagadougou, au Burkina, et vous êtes la maman de Geneba d'un petit garçon de 3 ans qui s'appelle comment d'ailleurs?
Bon, il s'appelle Ange Romaric.
Il a vécu une expérience assez douloureuse. Il n'en est pas encore sorti. On vous écoute pour votre témoignage, Geneba.
Ok. Oh, bah, mon fils avait 1 an. Il avait 14 mois lorsque nous sommes allés à l'hôpital. Nous avons pris un rendez-vous. Nous sommes allés pour faire une circoncision. Alors là, ça a mal tourné. Le docteur a dû couper, déchirer. Le docteur a dû déchirer les testicules de l'enfant sans nous avoir prévenus. Alors, arrivé à la maison, l'enfant a commencé à saigner et nous sommes repartis voir le même docteur. Il nous a fait comprendre que le point de suture ont lâché. Alors, ils ont recousu le point de suture et tout. Et après, nous sommes allés à la maison le lendemain encore. Nous voyons que l'enfant commence toujours à saigner. Nous sommes allés. Et c'est en ce moment que nous avons dit au docteur de nous donner un papier afin que nous puissions aller dans un hôpital spécialisé pour enfants. Il a refusé. Il a dit que lui, il connaît bien son métier. Ça, il a fait plus de 500 circoncisions. Alors, ce n'est pas celui-là qui ne pourra pas faire. Alors, nous avons fait le troisième jour, c'était pareil. À chaque fois, nous retournons là-bas. Et après, le quatrième jour, nous avons vu que l'enfant, vraiment, il perdait du poids, il pleurait, il saignait. Nous sommes allés dans un hôpital spécialisé pour enfants. Et c'est là-bas, quand ils ont vu vraiment l'état de l'enfant, c'était critique. On l'a vite pris en charge. Alors, ils ont fait... Nous sommes arrivés là-bas vers les 8 heures. Et on l'a pris... ils ont fait l'opération à 18h45. Jusqu'à présent, quand je prends l'enfant, quand je le mets au dos seulement, l'enfant me dit « Maman, ok, il a mal, les testicules lui font mal. » Alors, c'est pour ça que j'aimerais savoir est-ce que mon fils n'aura pas de problème de fertilité plus tard. Parce qu'il a été vraiment traumatisé. Et nous aussi, nous sommes traumatisés jusqu'à présent. Je n'arrive même pas, je ne sais pas si plus tard, quand j'aurai un enfant du sexe masculin, je ne saurais même pas quoi faire. Parce que vraiment, ça m'a tellement traumatisée.
On entend bien la douleur, Djeneba, et même le désarroi dans votre voix. Docteur Guy Werk, la liaison n'est pas optimale, mais vous avez pu entendre le témoignage de Djeneba. Que peut-on lui dire ?
Tout à fait. C'est une complication rarissime. Il m'est encore un peu aussi difficile de comprendre exactement ce qu'il s'est passé, puisque la circoncision est une ablation d'un morceau de peau localisé au niveau de la verge. C'est pour ça qu'il est primordial d'examiner les enfants avant, être sûr qu'il n'y ait pas de malformation congénitale, autrement dit que dans le ventre de la maman, la verge s'est bien développée. Si jamais il y a une malformation, il ne faut surtout pas réaliser de circoncision. La première chose que je dis lorsque je fais des circoncisions chez l'enfant, c'est rare mais j'en fais quelques-unes, c'est que je préviens les parents que le premier geste que je fais, même si j'ai endormi l'enfant, c'est le décalotage. Autrement dit, j'examine la verge, chose que je ne pouvais pas forcément faire en consultation du fait d'un rétrécissement, et que si je découvre la moindre anomalie, que ce soit au niveau de l'urètre ou de la verge, je ne réaliserai pas l'intervention et je transférerai l'enfant vers un chirurgien pédiatre pour qu'il puisse effectuer cette opération, parce qu'on peut utiliser le prépuce pour réparer les malformations congénitales. Alors, il m'est difficile de comprendre s'il y a une complication sur les testicules à proprement parler, ce qui me semble rare, comme extrêmement rare comme complication, ou plutôt sur les bourses, la poche qui entoure la poche cutanée qui entoure les testicules. Là, il va falloir dans un premier temps laisser l'évolution naturelle se faire et voir la croissance première des testicules s'ils grossissent bien avec le temps. Savoir s'il va y avoir un problème de fertilité, c'est encore trop tôt. Dès l'instant où la verge va pouvoir se développer, même s'il y a eu des séquelles esthétiques, il faut que l'on prenne un petit peu de recul pour voir un petit peu comment ça se passe.
Alors justement, Djeneba, vous nous avez indiqué que la circoncision avait touché les testicules. Effectivement, le docteur Guy Werk n'est pas en mesure, avec ce que vous nous avez dit, de vous donner toutes les indications, mais sur cette indication de consulter à nouveau, docteur Guy Werk.
Tout à fait.
Devant des douleurs qui perdurent.
Tout à fait. Et de faire un examen très simple, c'est une échographie, c'est-à-dire une imagerie des testicules pour voir leur intégrité. Est-ce qu'ils ont un volume normal pour l'âge ? Ça, on peut le faire rien qu'à la palpation. Mais est-ce qu'ils restent vascularisés ? Autrement dit, est-ce que le sang arrive et reparte bien du testicule ? Si c'est le cas, l'échographie sera rassurante. Quelle que soit l'intervention, quelle que soit la localisation d'une intervention chirurgicale, on peut garder des douleurs séquellaires liées à la suite de la chirurgie. Ce sont des complications rares et heureusement, mais il est possible aussi qu'il y ait quelques douleurs résiduelles. Et pour en avoir le cœur net, il faut réexaminer l'enfant et au moins faire une échographie pour s'assurer que les testicules ne soient pas lésés.
Djeneba ?
Oui, c'est vous.
Vous avez entendu, une échographie,
oui.
Consulter à nouveau, bien évidemment. Pourquoi pas une échographie ? Ne pas en rester là, c'est la bonne conduite à tenir, bien sûr.
Oui.
Et puis j'ai même envie de dire que si jamais plus tard il y a des séquelles esthétiques, tout ça, ça se répare.
Ok.
Et il y a des chirurgies réparatrices, bien sûr.
Oui. Ok.
On vous sent abattu, Djeneba, mais oui. On entend aussi que vous êtes une maman courage. Et on vous souhaite beaucoup de courage, justement. Merci.
Merci
de nous avoir fait confiance et d'avoir partagé avec nous cette histoire. On l'entend, docteur Guy Werk, parfois les choses tournent mal.
Tout à fait.
Il y a des complications qu'on connaît, qui arrivent plus fréquemment, et d'autres extrêmement rares.
Tout à fait. Alors la première chose, c'est d'abord anticiper les problèmes et de prévenir les patients. À chaque consultation, la Société française d'urologie, qui s'appelle l'Association française d'urologie, a émis pour les adultes et pour les enfants une petite fiche préopératoire, une fiche informative qui redétaille point à point l'ensemble de l'acte chirurgical, les complications précoces et les complications tardives. Comme ça, on sait que l'information, bien qu'elle ait été orale, puisse être écrite et rester, et que les patients puissent relire avant tout ça. Les complications plus graves peuvent arriver avec un pronostic esthétique et fonctionnel très important. Il peut y avoir des plaies au niveau du canal de l'urètre, il peut y avoir des difficultés de cicatrisation ou une nécrose de gland, ou des sections complètes de verge. Ça arrive, fort heureusement, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure en début d'émission, on estime que 30% des hommes sont circoncis selon l'Organisme mondial de la santé. C'est donc pour ça qu'il est très difficile de savoir le taux réel de complications de la postectomie en milieu hospitalisé pour des raisons médicales. Et par rapport au taux global, où l'indication réelle, où la technique utilisée, l'opérateur et les conditions sont inconnues parfois. Sont connues, et dans les circoncisions faites à domicile, où on ne sait pas vraiment quel va être le taux de complications.
Dans l'actualité sur la circoncision, en avril dernier, le docteur Elek, qui est chercheur au Royaume-Uni, a publié une étude sur laquelle il s'appuie pour établir un lien entre circoncision néonatale ou précoce et mort subite du nourrisson. Est-ce une étude à suivre, à surveiller? Est-ce qu'on a d'autres éléments qui vont dans ce sens?
Alors, toute étude médicale, pour avoir le cœur net, il faudrait que je la lise plus en détail, mais si elle est bien faite et prospective, oui, il y a pas de raison. Ça reste une opération. Toute opération, même que ce soit pour les amygdales ou pour un problème ophtalmologique chez un nourrisson, peut avoir des conséquences importantes d'un point de vue des complications techniques de la chirurgie et d'un point de vue des complications liées à l'anesthésie générale. C'est pour ça, une fois de plus, que la Société française de pédiatrie recommande cette intervention à 6 ans.
On accueille le docteur Cyril Kamadjou, chirurgien urologue en cabinet privé au Cameroun, dans cette discussion. Bonjour docteur Kamadjou.
Oui, bonjour à vous.
Bienvenue parmi nous. L'un de vos confrères, le docteur Guiwerk, est également bonjour. Avec nous.
Bonjour. Oui, bonjour à vous.
J'ai cette première question. Que se disent deux urologues qui se rencontrent sur l'antenne d'RFI?
C'est toujours un plaisir d'avoir un collègue urologue qui parle de la thématique assez importante de la circoncision. Il a révélé énormément de points importants auxquels nous sommes également confrontés ici au Cameroun, et donc on aura peut-être l'occasion de pouvoir les développer tout à l'heure.
Oui,
avec grand plaisir.
Et dès maintenant, docteur Kamadjou, tout comme le docteur Guiwerk, je vous propose de débuter cet entretien avec les questions d'une auditrice, c'est Esther, en Côte d'Ivoire. Écoutons-la.
Bonjour l'équipe de Priorité Santé, j'espère que vous allez bien. Je suis Esther de la Côte d'Ivoire, j'ai 25 ans. J'ai deux questions concernant la circoncision. La première, c'est de savoir si elle est obligatoire. C'est-à-dire, si aujourd'hui j'ai un enfant, je fais un garçon, est-ce que obligatoirement je dois le faire circoncis? La deuxième question concerne un cousin qui ne s'est pas fait circoncis depuis qu'il est né, et là, il est adulte. Je voudrais savoir si ça risque de lui poser problème peut-être à l'avenir, quand il voudra faire des enfants. Est-ce que ne pas se circoncis peut créer des problèmes à long terme? Merci.
Docteur Kamadjou, on vous écoute.
Oui. Donc, par rapport à la première question de savoir si la circoncision est obligatoire, bien évidemment non. Actuellement, au Cameroun, il y a énormément d'ethnies. Je pense que nous sommes à plus de 240 ethnies. Et en fonction des ethnies, la circoncision est plus ou moins recommandée. Je pense qu'il faut laisser cet acte à l'appréciation des parents. C'est eux qui jugent s'il faut ou pas faire la circoncision, mais cette opération n'est bien évidemment pas obligatoire. Alors, il faut simplement rappeler qu'il y a certaines situations, et ça a été rappelé par mon collègue, certaines situations médicales dans lesquelles nous allons proposer une circoncision enfant, notamment en cas de phimosis, lorsque le prépuce est rétréci et compromet donc le décalotage normal de la verge, et également lorsque les enfants ont des malformations congénitales des voies urinaires, avec un risque d'infection urinaire. Donc chez ces enfants, il est parfois proposé de réaliser une circoncision. Mais Sinon, c'est un acte chirurgical qui est laissé à l'appréciation des parents.
La deuxième partie du message d'Esther parle de son cousin qui est non circoncis. Elle se demande, est-ce que ça peut avoir un impact sur sa santé, notamment sur sa fertilité?
Oui, ça c'est également une question qui revient fréquemment ici au Cameroun. Généralement, les parents qui vont chez leurs enfants, c'est parce qu'ils pensent que les enfants seront beaucoup plus performants et surtout, et bien évidemment faux, à croire que on préviendrait des troubles de l'érection et de l'éjaculation précoce. Donc simplement pour dire qu'il n'y a absolument pas de risque à l'âge adulte d'avoir une influence sur la fécondité et la fertilité. Et donc pour son cousin qui souhaite réaliser cette intervention à l'âge adulte, il peut, mais dans le cas contraire, il n'y aura aucun effet sur son pouvoir de fécondité.
Et le voilà rassuré. Merci Esther pour vos questions. Docteur Kamadjou, plus de 90% des Camerounais sont circoncis. On peut parler d'une norme sociale au Cameroun ?
J'ai pas compris votre question.
Plus de 90% des Camerounais sont circoncis. Est-ce qu'on peut parler de norme sociale finalement au Cameroun ?
Oui, absolument. Il faut savoir que la quasi-totalité des enfants ici sont circoncis. Comme je vous le disais, la majorité des ethnies le recommandent. Et ce qui pose problème, c'est la demande qui est importante et l'offre qui ne suit pas. Ici, les hôpitaux n'arrivent pas à pouvoir répondre à toute cette demande, ce qui fait que c'est un acte qui est souvent pratiqué dans des structures sanitaires de second degré par des paramédicaux qui ne sont pas forcément formés. Et comme ça a été rappelé tout à l'heure, nous devons faire face à de nombreuses complications, parfois dramatiques.
J'avais prévu d'en parler un peu plus tard, mais comme vous l'abordez, vous offrez de votre côté à vos patients toutes les conditions de sécurité sanitaire pour réaliser cet acte. On l'a entendu, vous déplorez le recours à des centres de santé qui n'en sont pas réellement, à des circoncisions faites parfois à domicile par des non-professionnels de santé. Est-ce qu'on arrive à estimer le nombre d'interventions, disons, clandestines chaque année au Cameroun ?
Ça, c'est très, très difficile. Il faut savoir qu'au Cameroun, on a à peu près 500 naissances de sexe masculin par jour. Et vous allez avoir plus de la moitié, presque la totalité de ces jeunes patients qui vont se faire circoncire. Et comme je vous le disais, la majorité d'entre eux se font dans des structures sanitaires. Et parfois, vous l'avez rappelé, à domicile, dans des conditions sanitaires difficiles, avec des risques d'infection. Et je vous en passe des meilleurs. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'il est important de rappeler que la circoncision reste un acte médical. Ça a été rappelé par mon collègue, il est important de pouvoir avoir ce dialogue avec la famille, ce consentement éclairé pour pouvoir expliquer aux parents les risques de la complication, de la circoncision, avec bien évidemment les risques qui peuvent être encourus.
Je vous propose d'écouter Maria. Elle est à Yaoundé, justement. Elle a quelques questions à vous poser.
Bonjour Priorité Santé, je suis Maria de Yaoundé au Cameroun, j'ai 28 ans. La circoncision chez nous se fait un peu selon les cultures. Chez certains, on pense que plus tard on circoncit l'enfant, plus il deviendra un homme viril. Chez d'autres, par contre, comme chez nous, on pense plutôt qu'il vaut mieux le faire pendant les premières semaines de vie de l'enfant afin de lui éviter une trop grande douleur. Je me suis toujours posé la question de savoir quel est l'âge idéal pour circoncire un enfant. Et puis, est-ce qu'il y a des risques à le faire tard? Quels sont les risques qu'on encourt si on le circoncit après l'âge normal? En vous remerciant de vos réponses, je vous souhaite déjà de passer une très belle émission.
Merci Maria. Docteur Kamadjou, à nouveau pas mal de questions sur la circoncision.
Oui, énormément de questions. Donc pour répondre de manière assez brève, il n'y a pas encore une fois d'âge pour réaliser la circoncision, mais intuitivement, on pourrait se dire qu'à partir de 1 an. Pourquoi ? Parce qu'à partir d'un an, si vous devez faire une anesthésie générale, c'est beaucoup plus safe pour le jeune patient. Il est possible de faire cet acte sous anesthésie locale, mais lorsque vous savez, lorsque les enfants sont petits, il y a toujours un risque de passage du produit d'anesthésie dans la circulation, avec évidemment des conséquences qui peuvent être dramatiques. Et donc, idéalement, en tout cas en ce qui me concerne, lorsque les parents viennent me voir pour réaliser la circoncision, je commence à partir de 1 an. Et puis après, c'est laissé, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'appréciation des parents. Des parents pour savoir à quel âge ils souhaitent réaliser la circoncision. Maintenant, pour ce qui est de la douleur, effectivement, comme vous le savez, ça reste un acte chirurgical. Il est conseillé justement de pouvoir fournir une anesthésie à l'enfant pour éviter les séquelles psychologiques plus tard, hein, parce que les enfants se souviennent très très souvent lorsqu'ils ont été circoncis qu'il n'y a pas eu d'anesthésie. Et pour cette raison, je pense qu'il faut laisser l'enfant grandir un petit peu et ne pas faire la circoncision comme dans certaines tribu carrément à la naissance.
En date du 28 juillet, docteur Kamadjou, vous avez commencé à l'aborder tout à l'heure, parler des circoncisions qui se font de manière clandestine et pratiquées par des non-professionnels. En date du 28 juillet, c'était il y a 5 jours, un internaute qui se fait appeler de Cameroun, a posté sur Twitter un message justement pour dénoncer une circoncision qui a mal tourné, qui a conduit 3 jeunes garçons en urgence à l'hôpital central de Yaoundé. Et il exhorte les Camerounais à ne pas remettre cette intervention entre les mains de charlatans. Et là, je reprends ces mots. En réponse, l'un des internautes, lui, dénonce une autre pratique. Ce sont les promotions, disons, sur circoncision de groupe, par exemple, avec plusieurs enfants.
Oui, alors, il faut savoir qu'il y a énormément de centres de santé qui organisent, comme vous l'avez dit, des campagnes de circoncision, et vous avez pêle-mêle des enfants qui arrivent de partout du pays pour être circoncis. Mais je pense qu'il faut rester prudent, et il faut, comme le disait tout à l'heure mon collègue, examiner les jeunes patients. Parce qu'on se rend compte très très souvent que des enfants ayant des malformations congénitales se font circoncire. Or, comme vous le savez, il a très très vite signalé, la circoncision peut parfois compromettre la réalisation de certaines interventions plus tard, puisque la peau du prépuce peut être utilisée. Donc moi, ce qui me concerne, je pense que les campagnes ont ce côté négatif d'avoir un nombre de patients en groupe, en masse, avec parfois une baisse de la vigilance. Donc les enfants sont circoncis, je dirais, à la masse. Et donc ça, c'est très, très dangereux. Donc moi, je m'offusque un petit peu contre ces pratiques. Et je pense qu'il faut garder en tête la nécessité que chaque enfant qui doit subir cette intervention chirurgicale puisse être consulté et qu'il puisse avoir un consentement éclairé avec les parents. Et je reviens bien évidemment l'internaute qui disait que malheureusement ici au Cameroun, cette intervention est parfois laissée à des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui ne font même pas parfois partie du corps médical, et les conséquences peuvent être dramatiques.
Vous parlez des conséquences qui peuvent être dramatiques en cas de circoncision qui tourne mal. Quelle est la conduite à tenir, docteur Kamadjou? Que doivent faire les parents très vite?
En fait, je pense que la première chose, c'est d'aller voir un chirurgien urologue. Bien évidemment, il y a complications et complications. Lorsque vous avez une complication qui est une infection, ça peut se soigner. Quand vous avez un saignement actif, on peut encore l'arrêter. Mais lorsque ça va un petit peu plus loin, lorsque vous avez des amputations de la verge, voire des fistules, c'est-à-dire des communications entre le canal urinaire et la peau, des fistules urétrocutanées, ça devient un petit peu plus difficile. Et là, bien évidemment, ça nécessite une réintervention. Donc je pense que l'attitude à avoir, c'est d'abord dans un premier temps de se rendre à l'hôpital, de consulter un chirurgien urologue qui va analyser la situation et proposer une suite à ce problème.
Il y a cet autre point que j'aimerais aborder avec vous, docteur Guiwer, qu'avec vous, docteur Kamadjou. Depuis 2007, l'OMS recommande la circoncision dans le cadre de la prévention et de lutte contre le VIH. On l'a dit tout à l'heure, un outil supplémentaire, puisque plusieurs études ont démontré que la circoncision permettrait de diminuer à hauteur de 60% la contamination. Alors, docteur Kamadjou, est-ce que vous en parlez à vos patients ou est-ce que vous préférez taire cette information pour ne pas encourager des pratiques sexuelles à risque? Certains professionnels de santé parle notamment d'une diminution de l'utilisation du préservatif, par exemple.
Non, absolument. Mais si vous voulez, cette problématique au Cameroun est rarement prise en compte, hein, dans la mesure où la majorité des hommes qui arrivent en âge d'activité sexuelle sont déjà circoncis. Mais il est clair qu'il faut rappeler à nos patients que la circoncision n'est pas un moyen de protection contre le VIH. C'est vrai que cette étude montre une diminution de transmission de la femme à l'homme, mais il faut que les patients gardent en mémoire que le meilleur moyen de se protéger, c'est bien évidemment l'utilisation du préservatif. Et donc moi, ce qui me concerne, j'insiste énormément sur cette question.
Docteur Guiwerk ?
Ah, je suis totalement d'accord avec mon confrère, et vous l'avez rappelé, hein, depuis 2007, l'OMS a indiqué que la circoncision était uniquement une stratégie additionnelle de lutte contre l'épidémie dans ces zones géographiques.
Donc ces précisions sont importantes aussi à apporter. Avant de vous quitter, docteur Kamadjou, quel message aimeriez-vous adresser aux familles qui sont là à l'écoute et qui s'apprêtent à faire pratiquer la circoncision sur leurs enfants ?
Mais comme je le disais, je pense qu'il faut insister sur le fait que la circoncision reste un acte médical, que cet acte doit être confié à du personnel qualifié pour éviter les complications, nous l'avons dit tout à l'heure. Le second point, c'est outre l'aspect culturel, la circoncision peut être, comme nous l'avons dit, pour des raisons médicales, en cas de phimosis ou également en cas de malformation des voies urinaires. Je pense que c'est vraiment le message qu'il faut passer ce matin.
Docteur Kamadjou, je vous remercie vraiment pour cet échange riche en informations et aussi pour cette disponibilité. Je rappelle que vous êtes chirurgien urologue dans une clinique privée à Douala. Encore merci, docteur Kamadjou.
Merci pour votre invitation.
Docteur Guiwerk, on se dirige tout doucement vers la fin de ce rendez-vous. Je voudrais tout de même vous entendre sur cette question, circoncision et sexualité. La sexualité peut-elle se retrouver altérée suite à la circoncision ? On parle notamment de perte de sensibilité, donc potentiellement de perte de plaisir.
C'est possible, mais comme je disais tout à l'heure, la sexualité va faire intervenir plein de mécanismes, notamment des mécanismes cérébraux, qui vont être à l'origine de l'érection. Un homme peut avoir une érection avant même qu'il y ait une stimulation par le toucher du gland. Cependant, comme le gland va changer, en aspect esthétique, va devenir plus épais et un petit peu moins luisant, il peut y avoir des légers troubles de sensibilité, des baisses de la sensibilité qui peuvent changer le rapport sexuel par rapport à ce qu'il était avant. Étant donné que chez la plupart des adultes, l'indication reste médicale et c'est des patients qui avaient des douleurs en érection, parce qu'il faut bien s'imaginer que s'il y a un rétrécissement, la verge a du mal à gagner une amplitude parfaite, ça fait mal, ça peut déchirer, il peut y avoir des petites fissures, la circoncision va quand même apporter un confort lors du rapport sexuel chez ces patients-là, bien entendu.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'elle pourrait permettre d'avoir une sexualité plus épanouie ? Ou est-ce que c'est trop fort ?
Alors, c'est un peu fort comme terme, mais ça a été décrit dans le cas d'éjaculation prématurée ou d'hyperesthésie du gland, des douleurs très importantes au niveau du gland. L'idée est qu'il y ait une barrière supplémentaire, un peu comme s'il y avait un préservatif, entre les parties intimes de la partenaire et l'appareil génital masculin, qui permettrait de le rigidifier en quelque sorte et de le rendre moins sensible.
Est-ce qu'on peut rassurer les patients qui redoutent cette intervention, notamment les petits patients, mais aussi les plus grands ?
Tout à fait, tout à fait. La circoncision, lorsqu'il y a une indication et qu'elle est pratiquée par un chirurgien urologue, ne va pas jouer sur la sexualité ultérieure. C'est pour ça que l'entretien préopératoire est important, surtout chez l'adulte, pour connaître les attentes précises du patient, être sûr qu'il n'y ait pas une attente esthétique très importante, parce qu'il y a de plus en plus d'adultes qui viennent en demandant des circoncisions sur mesure, avec tant de centimètres de prépuce à retirer, une cicatrice qui démarre à quelques centimètres au-dessous du gland. Il faut leur expliquer exactement à quoi ils vont s'attendre et en quoi consiste l'intervention pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises et de mécontentement post-opératoire.
Et puis vous l'avez dit tout à l'heure, les complications sont assez rares, la cicatrisation se fait assez rapidement, assez vite finalement. Combien de jours en moyenne ?
Tout à fait. Alors maintenant,